Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Adrien Onchain Sapiens pour notre analyse toutes les deux semaines par rapport à ce qui s'est déroulé sur le marché des crypto-monnaies et surtout, eh bien, on va voir que depuis le 7 octobre, notre dernière émission, il s'est passé un petit flash crash entre-temps. Donc comme je te disais Adrien, juste avant de lancer l'émission, on va vérifier ensemble déjà où sont un peu les supports et résistances Onchain. Est-ce que ça a fait bouger les lignes? Est-ce que aussi ça a été un mouvement qui a été drivé uniquement par des liquidités et des leviers du côté ben justement des futurs ou de toutes ces personnes, on parle de 1,6 million de traders liquidés, 19 milliards qui se sont fait pulvériser en plein vol, ou est-ce qu'il y a eu un impact et une panique aussi du côté du spot, donc c'est-à-dire ceux qui détiennent souvent leur crypto-monnaie, que ça soit sur les échangeurs ou dans des non-custodial wallets. Donc super ravi de te retrouver pour ce cinquième épisode du 23 octobre 2025. Et super content de t'avoir avec nous à nouveau.
Eh bien écoute, pareil, merci CM. Bonjour à tous, c'est vrai qu'on se retrouve toutes les deux semaines et c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers temps, comme tu l'as dit. Depuis notre dernière émission, on a quand même eu un nouvel ATH aux 126 000 dollars, plus justement cette cascade de liquidation qu'il y a eu le vendredi, dans la nuit du vendredi 10, samedi 11 octobre. Donc oui, il s'en est passé des choses. Ça va être le bon moment de faire le point, puisque c'est vrai qu'on est vraiment à la jointure d'une potentielle fin de cyclicité de 4 ans, enfin de saisonnalité de 4 ans qui se passe sur BTC. On a eu ce fameux nouvel ATH. Donc ça va être pas mal de faire le point sur ce qui se passe un peu pour aiguiller aussi tous ceux qui sont dans ce cycle avec nous, qui sont investis comme nous. Et pour voir ce que ça peut nous dire pour la suite.
Et donc, par rapport à cette cascade de liquidation, dans la pratique, comment ça s'est déroulé? Qu'as-tu pu observer justement d'un point de vue on-chain? Est-ce que c'est venu taper jusqu'au portefeuille justement de ceux qui sont là pour du long terme notamment? Et par rapport à cette différence levier et spot, est-ce qu'il y a eu des implications qui sont venues justement jusqu'à créer une peur quelque part du côté de ceux qui détiennent leur crypto en général, puisqu'il y a du court, du moyen et du long terme toujours, mais pour les courts moyens termistes, est-ce que la panique s'est propagée?
C'est extrêmement intéressant parce que comme tu l'as dit au début de la vidéo, on a eu en tout cas estimé entre 19-20 milliards de liquidations quand même au niveau des leviers, des contrats dérivés, donc ce qui est vraiment énorme, comme justement le dit Raphaël sur X. Juste pour BTC tout seul, c'était plus de 10 milliards quand même dans l'open interest qui a été quand même liquidé. Donc énorme. Et pour autant, en fait, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est au niveau du spot, comme je l'ai marqué ici sur ce post, en fait, on a eu que, entre guillemets, parce que ça reste énorme, mais 200 millions de pertes, 200 millions de dollars de pertes réalisées. Ce qui est en fait moins que même, enfin beaucoup moins que la correction que nous avions eue en fin août lorsqu'on avait corrigé sous les 108 000 dollars. En fait, quand on regarde ce graphique, on arrive justement à regarder, à trouver en fait le montant environ journalier qu'il y a eu de pertes sur BTC en spot. Et comme vous le voyez, au 10 octobre, en fait, on était sur du 200 millions de dollars, donc ce qui est quand même assez ridicule, puisque même fin septembre, on était sur les mêmes niveaux, et même au mois d'août, on était plutôt sur autour des 300 milliards. Donc, ça a été vraiment un mouvement qui a été créé vraiment pour liquider tous les leviers sur le marché. Et c'est vrai qu'on l'avait vu, j'avais vu ça sur X, il y avait un petit dashboard extrêmement intéressant qui malheureusement en disait long un peu sur les conséquences de ce flash crash, puisqu'on a eu des traders qui ont perdu des 50 millions, des 10 millions en l'espace de cette nuit-là. Donc des économies, j'ai envie de dire, d'une vie, des investissements d'une vie. Et donc oui, c'est vrai que ça a fait énormément de mal au marché. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'à côté, dans ce malheur, on se retrouve sur un marché qui a vraiment été déleveragé, donc en anglais, où vraiment on a purgé tous les leviers. Et généralement, en fait, ce genre de zone, comme vous le voyez ici, avec ces petits points bleus, en fait, que vous voyez sur la courbe du BTC, eh bien, quand on regarde historiquement parlant sur ce cycle 2023-2025, ça arrive à chaque fois sur des moments charniers, dans le sens où, bah, comme vous le voyez, à chaque fois que ça arrive, on est dans cette zone où ça prend quelques semaines. On va pas se mentir, on va peut-être pas redécoller dans les jours à venir, mais si une nouvelle jambe haussière devait se passer, eh bien, comme on le voit à chaque fois, ça prend quelques semaines avant de pouvoir justement avoir cette nouvelle jambe haussière. Et comme on le repère, voilà, c'est arrivé par exemple en août 2023, quelques semaines à latéraliser, puis ensuite une nouvelle hausse, également en avril 2024, juillet, août 2024, avant une nouvelle hausse quelques mois plus tard. Idem, comme vous le voyez, fin février, début mars, avant une nouvelle hausse quelques semaines plus tard. Et là, en fait, on a l'impression de refaire ce même pattern. Alors évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Ça ne veut pas dire absolument qu'on va repartir à la hausse. Mais c'est assez intéressant de voir que, encore une fois, est-ce qu'il y a eu de la manipulation ou pas ? Je vous laisserai mettre le mot que vous souhaitez sur cet événement. Mais en tout cas, on voit que ça peut servir vraiment à purger ce marché pour peut-être, je dis bien peut-être, avoir une jambe haussière dans le futur.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que pour l'instant, bon, certes, on a eu une belle déroute du côté des altcoins, mais qui ont quand même rebondi assez fort. Mais quand on observe Bitcoin, en effet, on a la sensation que hors timing de fin de cycle, puisque c'est quelque chose qui aussi peut devenir un peu autoréalisateur, tu vois, si tout le monde joue ça, pour l'instant, il se tient plutôt pas mal. On est quasi à 110 000. Ce matin, je crois qu'on les a retouchés, les 110 000. Donc, ce n'est pas encore la peur qui prédomine sur le marché. Tout comme au-delà des leviers, on n'a pas la sensation que les participants moyen-long terme ont envie plus que ça, là, dans l'immédiat, de se décharger de portions importantes de Bitcoin. Donc, peut-être en effet que sur ce cycle de transition, on arrive à quelque chose de tout à fait nouveau et qu'on aura peut-être un petit peu mieux d'ici la fin d'année, maximum début 2026, modulo le fait que le gold est très haut en effet, le S&P pareil, même le CAC 40 a fait un nouvel ATH pour la France, donc on a quand même des indices qui sont très hauts, toujours plus hauts, et ça laisse quand même se poser toujours la question à la fin de quand est-ce qu'il y aura une correction un peu plus majeure et un peu plus macro, tout simplement.
Exactement. Et là, je vais parler d'un domaine que je maîtrise pas forcément à 100%, mais ce qui est plutôt intéressant et ce que j'ai lu récemment, c'est que justement, cette purge des leviers, donc sur les contrats futurs, a en quelque sorte laissé passer finalement les options devant en termes de volume, justement les contrats dérivés. Donc, ce qui veut dire que les options, si vous voulez, c'est un peu les institutions ou les gros portefeuilles jouent aussi beaucoup. C'est un peu une sorte de façon de jouer avec. Je suis pas expert comme je le dis, mais de jouer en tout cas avec du sur l'action du prix, mais globalement avec un peu plus de sécurité, et ce qui fait que on a moins de volatilité aussi. Mais on voit, comme ce que l'on est en train de voir, comme on avait vu, je crois, il y a 2 semaines dans la précédente vidéo, où on voyait des vieilles whales, enfin des vieux détenteurs de BTC vendre finalement pour les institutions, donc une passation finalement de BTC, un changement de main. On est en train aussi d'observer là une sorte de professionnalisation de tout ce qui est en fait. Finalement, contrats dérivés, options, futures, etc. Et du coup, c'est un peu dans la même dynamique. Donc, je trouve ça assez intéressant aussi de le relever. C'est un sujet que je dois d'ailleurs creuser un peu plus. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu et ce qui semble se faire de plus en plus, en tout cas sur ce marché et sur Bitcoin.
Et c'est intéressant aussi d'observer, là, je regardais en même temps que tu parlais, ces dérivations à la baisse, les drawdowns qu'on appelle donc les corrections. Enfin, c'est difficile tout le temps de traduire avec des termes exacts. Oui. Entre l'anglais et le français, ça serait presque plus facile des fois de parler anglais. Mais bon, bref, on voit petit à petit, mine de rien, que même au travers des baisses, on a une baisse, c'est le cas de le dire, depuis 2025, peut-être même 2024, de la volatilité. Et c'est ce qui fait que peut-être aussi, depuis l'arrivée en janvier 2024 des ETF, le fait que les institutionnels se soient saisis véritablement de ce marché, on aura peut-être au travers du temps, là aussi ça reste beaucoup de peut-être, puisque jusqu'ici on a toujours eu des bear markets d'ontologie sur le marché crypto, donc il ne faut jamais dire jamais, on l'a vu récemment, cette purge est là pour nous le rappeler. Mais d'un autre côté, quand on regarde les majors, mais surtout Bitcoin en tête de file, on a la sensation que petit à petit, en effet, la volatilité continue de dégraisser et on a potentiellement des drawdowns aussi qui seront moins importants que ce qu'on l'a connu par le passé, sachant que les cycles précédents, c'était moins 89, moins 85 et moins 77 pour Bitcoin. Donc, si sur ce cycle, on arrive par miracle à avoir un moins 50 ou un moins 60, ça sera déjà plutôt pas mal. Quelque part.
Exactement. Ça, on en discutera justement à la fin. C'est vrai que j'ai des petites targets au cas où, si justement on passe dans ce scénario baissier, parce que vous le savez, on parle en termes de probabilité et le but, c'est d'être prêt à tous les scénarios. Donc, on en parlera justement. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que même à travers les cycles, ici en bleu, on a le cycle de 2016-2017, en vert 2020-2021. Et là, 2023-2025, on voit très bien que ces fameux drawdowns, ces corrections, cette fois en cycle haussier, sont de plus en plus petits. En 2016-2017, on avait du moins 40, du moins 30% à foison. Vous voyez à chaque fois tous ces pics ici en bleu. 2020, enfin 2019, 21, ouais, c'est ça. On était sur du, parfois du moins 50 en plein cycle haussier. Donc voilà, peut-être moins de corrections, mais un peu, mais beaucoup plus intense. Et ici, on est à part à deux fois où on a dépassé les moins 30% en août 2024 ou justement en avril 2025. Là, on est sur une correction, somme toute, assez raisonnable. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a cette possibilité qu'avec les institutions, évidemment, que ça se, bah, qu'il y ait beaucoup moins de volatilité, autant à la hausse qu'à la baisse. Et pour autant, c'est vrai que ça fait toujours aussi mal, même à moins 17%, comme on le voit aujourd'hui. On est quand même dans un état assez de peur quand on regarde le Fear and Greed Index, qui nous permet de voir justement le sentiment global du marché. On est quand même dans une sorte de peur, voire même de peur extrême, donc ce qui est plutôt intéressant de le notifier. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est beaucoup lié aussi à la saisonnalité du Bitcoin. Et je pense, comme tu l'as dit, que c'est énormément lié à la saisonnalité du Bitcoin. Puisque, comme vous le savez, on est dans la tranche, que ce soit autant par rapport au cycle, au point bas précédent. Donc ici, par exemple, on parle de novembre-décembre 2022, lorsque BTC avait touché les 15 000 $, ou depuis le dernier ATH, ou même depuis le précédent halving, on est exactement, ça c'est un graphe de James Check, qui justement en fait le relève bien, on est exactement là dans cette phase où les deux précédents cycles, on était sur les ATH de 2017 et de 2021, donc on est vraiment dans cette tranche-là, et donc évidemment que beaucoup d'investisseurs commencent à se poser la question, et on le verra dans les charts, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent des profits, potentiellement parce que les pro-cycles de 4 ans sont vraiment en train de se dire c'est le moment de sortir, peu importe qu'on soit en euphorie, qu'on n'ait pas eu un super ATH, un super cycle, etc. C'est le moment de prendre des gains.
Ouais, c'est super intéressant parce qu'en ce moment, on sent vraiment qu'on est un peu sur la pente glissante, tu vois, ça joue avec les supports. On a quand même eu une descente assez rapide et notamment du côté des altcoins. Alors, la problématique, c'est que quand tu regardes les alts hors des trucs à peu près capitalisés ou qui ont bien marché sur ce cycle, donc ça se compte sur les doigts maximum des deux mains, eh bien, la plupart des autres alts sont déjà en bear market et depuis un an et demi. Donc, quand on dit bear market, quand on dit prendre ses profits, etc., bah, tous les gens qui sont que dans les altcoins, ils ne savent pas du tout pourquoi on dit ça. Et ils ont l'impression que le cycle n'a pas eu lieu tout court. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de jauger justement de si Bitcoin peut nous faire une correction plus marquée là, dans les prochains mois et ce qui entraînerait de nouveau les alts très certainement vers des nouveaux points bas. Enfin bref, je ne vous fais pas le tableau. Ou de si on est un peu dans cet entre-deux avec peut-être une phase un peu plus dynamique. Si jamais le gold aussi venait à lâcher un peu de son propre market cap, il faut forcément que ces flux financiers aillent quelque part. Est-ce qu'ils iront dans les actions ? Est-ce qu'ils iront en cash ? Est-ce qu'ils iront dans les cryptos, dans le Bitcoin ? Voilà, c'est encore beaucoup de questionnements pour trop peu de réponses, comme d'habitude. Mais on essaie de vous donner un sentiment qui colle aussi à notre ressenti du moment et à ce que nous donnent les data, hein, comme on disait. On est sur une saisonnalité de fin de cycle, mais tout en ayant eu l'impression que pour les altcoins, en grande majorité, il n'y a pas eu de cycle. Donc, ces deux sentiments qui sont quand même assez antagonistes.
C'est clair. Et c'est vrai que peut-être, et je pense que ça se confirme, on le verra potentiellement justement sur cette fin d'année, mais 2021 était peut-être l'anomalie en fait dans l'histoire des cycles, c'est-à-dire que justement tous les altcoins explosaient à la hausse à la moindre news, à la moindre nouvelle, et même des fois pour rien du tout. Peut-être que c'était l'exception à la règle et qu'aujourd'hui, évidemment, il faut se contenter parfois d'un plus 50%, d'un fois 2, d'un fois 3 sur un altcoin. C'est peut-être déjà pas mal, surtout, comme tu l'as dit, vu la dynamique globale sur les alts qui, mine de rien, subissent beaucoup le comportement de ce cycle et de Bitcoin. Et en plus, c'est vrai que c'est déroutant puisque de base, historiquement parlant, on s'attendait à un mois de septembre baissier. Finalement, il a été plutôt à la hausse, puisque historiquement parlant, sur 14 points de données sur 14 années, septembre est plutôt dans le rouge. Octobre, largement dans le vert, et là, on est plutôt dans le rouge. Donc, c'est assez déroutant, je pense, pour tout le monde. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que déjà, lors de notre précédente vidéo, si je ne m'abuse, on avait déjà parlé de l'idée qu'on était repassé dans une BTC season, c'est-à-dire que Bitcoin reprend tous les capitaux. Et que dans ces cas-là, en tout cas sur ce cycle, c'est toujours très pertinent d'être assez prudent, puisque si Ethereum, comme on le voit ici en bleu, on voit que depuis la mi-août, ses capitaux entrants diminuent petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'afflux de capitaux, de dollars qui entrent sur la capitalisation d'Ethereum, bien généralement les alts vont aussi subir. Et à l'inverse, c'est vrai que sur Bitcoin, depuis la fin, enfin, depuis globalement la fin août, on est sur quelque chose d'assez positif, on est sur un plateau. Là aussi, pourquoi il tient assez bien les niveaux actuels? On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, quand même toujours entre 20 et 40 milliards de dollars qui arrivent mensuellement, donc sur une moyenne à 30 jours sur BTC. On voit que même dans cette phase actuelle, il y a quand même beaucoup. Comme on l'a vu qu'il y a eu, enfin, vu qu'il y a eu beaucoup de ventes à perte lors des derniers crashs, eh bien, il y a quand même des nouveaux capitaux qui rentrent, donc ce qui nous prouve que la demande est quand même là, malgré ce doute. Et ça, c'est quand même positif, mais ça nous montre aussi que pour l'instant, bah, forcément, les alts ne vont pas bénéficier de ce plateau et de cette force de BTC qu'il a pour le moment.
Oui,
et
c'est ce qu'on observe au niveau de la dominance, en effet, hein, qui avait rebondi récemment de quelques points et qui n'a pas l'air de vouloir repartir au sud, malheureusement. Ce pas qui, une fois de plus, n'accrédite pas la fameuse thèse qu'on va vers une alt-season. Et je regardais aussi la dernière fois le recel, donc les low cap américaines. Pareil, ça coince autour de son ATH. Donc, on a toujours... Ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir, hein, que ça soit du côté des cryptos ou du risque tout court. D'un autre côté, je me dis que aujourd'hui, on voit que des capitalisations comme les cartes Pokémon, les skins CS:GO, etc., ont trouvé leur public et se développent très positivement ces dernières années. Pareil, peut-être les montres de luxe sont en train de faire un point bas. Donc voilà, je fais une petite digression, mais ça nous permet aussi de jauger de l'appétence au risque multimarché. Des participants qui ont du cash, qui ont de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a que le gold qui compte et l'IA et la technologie américaine. Ça ne sera pas toujours vrai et peut-être que demain, on aura de nouveau une rotation. Donc, il faut savoir profiter de ces rotations tout en jouant défensif quand pour nous, ça n'est pas le bon moment pour les cryptos ou pour les altcoins ou que sais-je, tout en ayant bien conscience que ce cycle a fondamentalement bien rebattu les cartes, hein, au niveau de comment fonctionne le marché crypto. Donc, ce n'est pas pour se dire « Ok, j'ai un bac d'altcoin à moins 99, c'est sûr que plus tard, éventuellement, tout va remonter. » Enfin, voilà, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, bien au contraire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un mood où, en effet, ça a été vraiment porteur pour l'industrie crypto au sens large du terme. Et c'est là où, dans les prochaines années, il va falloir démontrer qu'on en veut face à une IA qui, elle, a les crocs et qui est en train de faire le trou noir à liquidité et qui est un atout technologique. On a encore eu OpenAI là, qui a annoncé un navigateur plus pas mal d'autres nouveautés. Donc, ça va très, très vite hein, pour le coup du côté de l'IA. Et c'est pour ça qu'il ne va pas falloir s'endormir pour nous, pour la blockchain, tout simplement.
Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que pour les altcoins aussi, le mieux dans ce marché, en tout cas, et ça se confirme sur tout ce cycle-là actuel, le mieux, c'est quand même d'attendre, en fait, généralement, que oui, on arrive à une sorte de retournement, par exemple, sur Ether, où on commence à avoir des capitaux qui, tout d'un coup, re-rentrent petit à petit, puisque, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on est sur une phase de retournement, eh bien, en fait, ça correspond aux phases, les phases optimales pour finalement se remettre un peu dans le risque et justement parier sur des altcoins de qualité, puisque comme on le voit, par exemple, si on avait commencé à réinvestir lorsque les capitaux revenaient sur Ether, eh bien, on aurait pu acheter de l'Ethereum ici à 1300, 1500 dollars. Donc après, il a eu son beau run. Idem ici, fin août, à peu près fin août, début septembre, on aurait en fait accumulé finalement sur des prix assez intéressants, mais tout à l'inverse, quand on a vu justement les capitaux diminuer, bah là, c'est plutôt intéressant de soit se remettre en stablecoin, soit évidemment de se remettre sur le numéro 1 des crypto-monnaies qui est Bitcoin, puisque finalement, tout est histoire quand même de rotation intelligente, j'ai envie de dire, pour vraiment performer dans ce cycle. J'ai vraiment, et je pense que tu confirmeras ça, mais enfin, comme tu l'as dit d'ailleurs, le hold, le maximaliste de se dire je détiens mes cryptos jusqu'à que ça atteigne un certain niveau de prix sur ce cycle, on voit que voilà, c'est quand même très risqué et pas très lucratif.
Ouais, tout à fait, et c'est un cycle qui nous aura déstabilisé tous, hein, même ce qui s'est passé du côté de ETH. Voilà, on ne s'attendait pas forcément, alors qu'on pensait qu'il allait vers franchir son point haut, se retrouver de 4000 et des brouettes à 1380 dans ces eaux-là. On est revenu taper le point haut de 2021, donc ça a été vraiment très, très compliqué pour le coup, voire même 2018, puisque la première fois qu'il a touché 1400, ça devait être 2018 et ETH. Donc ouais, on a fait un pas en avant pour faire 15 pas en arrière sur ce cycle. Hormis Bitcoin qui a très très bien fonctionné, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « bon, ben, je jette l'éponge du côté des alts et je deviens Bitcoin maximaliste », ça peut tout à fait s'entendre. Et aujourd'hui, ben, on a au moins de quoi jouer quelque part avec ce graphique que tu nous montres à l'écran, les points bas sur Ether, les points hauts sur Bitcoin, la rotation entre les deux. Donc même pour ceux qui voudraient s'aventurer quelque part à faire, comme tu le disais, une rotation intelligente, vous avez quand même quelques outils comme ça qui vous permettent de saisir un peu le momentum au niveau du marché et les moments où il fait très chaud ou trop froid et où vous pouvez vous positionner en adéquation avec ce qui est en train de se dérouler. Après, bon, comme d'habitude, le but aussi, c'est voilà, d'essayer d'être là suffisamment de temps pour, même pour ceux qui rentrent aujourd'hui sur Bitcoin, comme on le disait tout à l'heure, admettons, vous rentrez, vous avez de quoi, voilà, vous avez touché un héritage et vous dites, bon, coûte que coûte, je veux acheter un Bitcoin entier. Vous achetez en une seule fois un Bitcoin à 110 000, ce qui n'est pas forcément la chose la plus logique à faire, mais pourquoi pas, hein, y en a qui défendent le lump sum. Et vous vous retrouvez dans 2, 3, 4 trimestres à moins 50%. Et c'est plutôt ça la question aujourd'hui. Est-ce que vous investissez sur une conviction qui vous permettra, même sur Bitcoin, d'encaisser un moins 50 avant de potentiellement plus tard le revoir plus haut que ce que vous l'avez acheté, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de voir le truc aujourd'hui, systématiquement en mettant en balance qu'est-ce que je risque aujourd'hui pour qu'est-ce que je risque de gagner plus tard, tout simplement.
C'est ça. C'est très bien dit, c'est vrai que tout dépend de la conviction et de l'horizon de temps d'investissement. C'est vrai que si c'est pour jouer un coup et se dire j'investis maintenant pour jouer la prochaine jambossière et après je pars, c'est vrai que là le risque est quand même assez élevé par rapport à la récompense. Puisqu'on le verra, c'est vrai qu'on a des cibles comme on avait déjà discuté sur les 4 précédents épisodes. Quand on voit un peu le marché actuel, je pense que ces cibles sont assez raisonnables de viser les 150 par exemple, les 150 000 dollars. Donc, est-ce que, voilà, comme tu l'as dit, en fonction du montant qu'on a à placer sur BTC, est-ce que ça vaut le coup de tout mettre là maintenant? Bon, c'est une question qui se pose et comme tu le dis, ça dépend des convictions. Si vous êtes convaincu que Bitcoin ira un jour à 1 million de dollars, voilà, peu importe que vous achetiez à 110 ou à 90, voilà, si vous êtes droit dans vos baskets et que vous arrivez à bien dormir comme ça, ça ira, ça c'est clair.
Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Et donc maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé récemment et ce qui pourrait éventuellement arriver là pour le court terme en termes de saisonnalité, quels sont les objectifs court terme justement, court moyen terme quand on observe justement les indicateurs on-chain?
Mais écoute, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est justement celle dont tout le monde se pose. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le marché, en l'espace de quelques jours, en une dizaine de jours, il a complètement, c'est vrai, un peu shifté. On observe pas mal de ventes. Donc, vous le savez, ce que j'aime beaucoup faire personnellement, c'est regarder quand les hodlers, les investisseurs de long terme, quand même vendent massivement, puisque généralement, comme on voit par exemple sur les deux derniers gros tops que nous avions eu en mars 2024 ou novembre-décembre 2024, lorsqu'ils vendent massivement, ici en bleu, vous voyez leur supply, donc leur BTC détenu diminué, c'est que généralement, ces niveaux de prix les intéressent et globalement, ils vont épuiser la nouvelle demande qui arrive sur le marché par ceux qui FOMO, qui arrivent tout à la fin et qui malheureusement se retrouvent à acheter un top. Là, c'est vrai que depuis quelques semaines, on était sur un déploiement, sur une distribution assez saine, c'était pas non plus drastique comme on l'a vu sur les deux précédents tops. Et finalement, depuis la mi-septembre, début octobre, c'est vrai qu'il y a eu quand même... belle distribution de la part des investisseurs. Pour autant, ce qui est plutôt intéressant à relever, c'est que ce ne sont pas des très vieux hodlers. Donc, c'est intéressant dans le sens où, vous savez, si des investisseurs ont acheté beaucoup de Bitcoin à 500 dollars, bon, et qu'ils les vendent massivement, il faudra quand même, si vous voulez, un ajout de liquidité sur le marché assez énorme, parce que vous le savez, au niveau on-chain, ce que l'on voit, c'est si j'achète un Bitcoin à 5 000 et que je le vends à 120 000, il y a quelqu'un qui va devoir ajouter 115 000 dollars sur le marché pour faire l'équilibre. Donc, ici, ce que l'on voit, c'est que grâce à ce graphique, on arrive à repérer quand beaucoup de BTC et en plus d'anciens BTC sont vendus, on arrive, comme vous le voyez, sur ces fameuses zones de top. Regardez ici, hop, plus on arrive dans une couleur assez foncée, plus on se dit, OK, beaucoup de vieux Bitcoin sont déplacés, sont vendus. Là, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, en fait, il y a cette thèse qui me plaît beaucoup, qui n'est pas du tout de moi, mais qui me plaît beaucoup, dans l'idée qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, puisqu'aujourd'hui, en fait, le coût moyen des BTC vendus est à peu près à 68 000 dollars. comparé à ces phases-là où on était plus sur du 35-40 000 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des investisseurs beaucoup plus vieux qui vendaient leur BTC. Ici, c'est des investisseurs vieux, mais assez jeunes, vous voyez ce que je veux dire, qui vendent leur Bitcoin. Puisqu'une moyenne à 60 000 dollars, 68 000 dollars, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui les ont achetés, voilà, parfois à 90, parfois à 40, etc. Ça fait une belle moyenne. Mais du coup, cette thèse de théorique, qu'évidemment, ce sont les pros cycles de 4 ans qui commencent à sortir du marché, prendre leur profit et se dire de toute façon, on est arrivé au bout de ce cycle, je vais prendre mes gains. Dans un sens, on ne peut pas leur en vouloir. Ce qu'ils sont en profit, c'est justement tout ce que l'on souhaite être nous aussi. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de prendre leurs gains. Ça, c'est clair. Ce que l'on voit, c'est que justement, et ce qui est, par contre, cette fois, me dérange un peu plus, c'est que généralement, dans les phases de correction, on voit très peu de prise de gains sur le marché. Comme vous le voyez, mars-avril, voilà, on était sur des journées à 500 millions. Comparé à ce qui s'était passé en novembre-décembre, on était sur des journées à 3 milliards de prises de gains. Vous voyez, ce n'est pas le même topo. Mais là, on était sur quand même une grosse correction. Et des prises de gains entre 1,4 et 1,8 milliards de prises de profit. Donc, cette thèse, pour moi, elle est assez viable de se dire, OK, c'est des investisseurs qui ont accumulé autour des, justement, en moyenne à 68 000 dollars et qui sortent du marché, puisque, évidemment, pour eux, c'est la fin de ce cycle. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de ce cycle, mais on ne peut pas leur en vouloir de vendre pour prendre leurs gains. Mais du coup, évidemment, on est dans cette phase où il y a une demande qui est un peu revenue sur le marché. Vous voyez ce qu'on appelle la hot supply. Donc, tous ceux qui ont investi il y a moins d'un mois, on est passé de 7% de détention de tous les BTC à 10%. Donc, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on voit un regain quand même des investisseurs qui accumulent du BTC sur ces prix-là. C'est pour ça aussi qu'on se maintient sur ces prix-là, j'ai envie de vous dire, parce que avec des journées à moins un, enfin, avec des journées avec des profits qui sortent de quasiment 2 milliards de dollars, il faut quand même tenir les, je sais pas, les 110, les 105, les 107 000 dollars sur les niveaux où on est actuellement. Donc, très intéressant. Et à la fois, voilà, faut faire attention, puisqu'évidemment, on est en train d'épuiser de la demande, des capitaux qui arrivent pour juste se maintenir sur ces prix-là. Donc, à surveiller, mais pour l'instant, voilà, c'est assez intéressant de se dire que potentiellement, on a quand même une certaine partie des investisseurs qui sortent. Peut-être à raison, peut-être à tort, les semaines qui arrivent vont en tout cas nous confirmer cela.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire attention que ça ne devienne pas un phénomène autoréalisateur par rapport aux
C'est
dates.
ça.
On en plaisantait encore avant de lancer l'enregistrement de cette personne, notamment le fantôme de 4chan ou je ne sais pas quoi, qui avait dit que ça serait le 6 octobre de nouveau le top du prochain cycle et plusieurs années à l'avance. Donc les dates apparemment n'étaient pas tout à fait justes, mais la date que lui a annoncée, en tout cas jusqu'ici, des 125, quasi 126, bah, pour l'instant, et le top de ce cycle. Donc c'est assez dingue.
Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez fou. Du coup, vous le savez, au niveau on-chain et même technique, ce que l'on veut, j'imagine que vous en êtes conscient, c'est quand même très rare, très dur de trouver le top exact et vendre au dollar près le top d'un cycle. Donc, nous, ce que l'on va faire, puisque dans notre précédente vidéo, il me semble qu'on en avait parlé, que voilà, attention, on était sur un nouvel ATH, il y avait quand même pas mal de prises de profit et que c'était généralement intéressant pour nous aussi de prendre des gains. J'espère que vous avez su le faire même partiellement. Et maintenant, en fait, l'objectif, ça va être de se concentrer sur, OK, à partir de quel moment je vais invalider la thèse que le cycle haussier continue et que peut-être, oui, on arrive dans un cycle baissier. Et qu'il peut être intéressant de ne pas garder ses bagues, donc que ce soit BTC ou ses altcoins, bah jusqu'au fond du trou, et que malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on se retrouve sur des moins 80, moins 90%. Alors, on a deux choses à voir. On a ce graphique qu'on avait partagé justement sur notre Discord, qui était plutôt intéressant cette fois au niveau technique. Là, pour l'instant, BTC est dans une sorte de dynamique baissière court-termiste, mais se maintient sur certains niveaux assez intéressants. On voit qu'on maintient la moyenne mobile des 200 derniers jours. Donc pour l'instant, ça c'est extrêmement positif puisque c'est un signe, mine de rien, de résistance de la part de BTC pour pas forcément aller beaucoup plus à la baisse. Et pour autant, on n'arrive pas à reprendre certains niveaux, dont ici par exemple, justement, la moyenne mobile de 20 et 50 jours, qui à peu près aux 114 000 dollars, voilà, on bute un peu dessus et pour l'instant, par deux fois, on a rebondi sur ces points-là. C'est assez intéressant puisque au niveau on-chain, en fait, on trouve pas mal de convergences. C'est-à-dire que nous, par rapport aux techniques, on va essayer de se concentrer évidemment sur le comportement des investisseurs. Et on va se baser, vous le savez, j'en parle à chaque fois, je crois qu'on se voit CM, c'est justement lorsque les nouveaux investisseurs, en fait, ils ont un coût moyen d'acquisition qui est à peu près sur les 113 000 dollars aujourd'hui. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau-là, on repart à la baisse, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme d'une résistance. Ça veut dire que ces investisseurs-là préfèrent revenir à break-even, c'est-à-dire ni profit ni perte, en moyenne, et sortir du marché. Donc, en fait, on voit une faiblesse dans l'action du prix, puisque c'est un peu un effet boule de neige. Les investisseurs ne veulent pas continuer à être dans ce marché, et dès qu'ils le peuvent, ils sortent du marché. Donc, c'est assez intéressant, puisque j'avais posté ça aussi. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a vécu en février-mars 2025, où justement, on était passé, vous voyez, sous ce coût moyen d'acquisition ici en rouge. On avait brièvement aussi cassé cette moyenne mobile des 200 derniers jours ici en orange. Et à chaque fois qu'on rebondissait dessus, eh ben en fait, c'était à chaque fois un bon moment pour sortir avant une sorte de vraie capitulation qui nous a amené, vous voyez, sur des niveaux beaucoup plus bas et ces fameux 78, 75 000 dollars. Là, ça va être un peu le même topo. Nous, ce qu'on attendrait pour avoir une reprise à la hausse, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire, on passe sous ce coût moyen d'acquisition, on le reprend à la hausse, on le reteste. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des patterns qui nous confirment qu'on repart à la hausse. On le reteste, mais cette fois en tant que support. Et là, on explose à la hausse. Et comme on le voit, c'est arrivé à maintes reprises sur ce cycle. C'est exactement ce que l'on veut voir. Donc là, pour l'instant, on est dans quelle configuration? Eh bien, on est sur celle où on rebondit, malheureusement, on trouve résistance sur ce coût moyen d'acquisition et on repart à la baisse pour trouver cette fois support sur la moyenne mobile des 200 derniers jours. Et il y a moyen qu'on fasse le yo-yo encore quelques temps jusqu'à ce que le marché prenne une vraie direction. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que si on copie le scénario de février-mars 2025, on avait rebondi sur ici cette bande jaune qui s'appelle le MBRV Min, qui correspond à l'endroit où les investisseurs commencent vraiment à être pas forcément très confiants, mais c'est une zone primordiale à défendre. Et autant en août 2024, où vous savez, par rapport à la TH de mars, on était sur du moins 30%, ou en avril 2025, par rapport à la TH de janvier, on était sur un moins 30%, ici, ce serait quasiment le même topo, et c'est la zone à peu près, parce qu'encore une fois, c'est autour de cette zone, des 100 000 dollars. Donc, j'ai envie de vous dire, ce qui est plutôt positif, c'est que psychologiquement parlant, tenir déjà les 100 000 dollars, c'est extrêmement positif. Et en plus de ça, ça ne ferait pas forcément une correction si énorme de retoucher les 100 000 dollars. On ferait vraiment cette fois capituler les investisseurs, puisque comme on l'a vu, les pertes sont pas si énormes que ça, malgré toute la peur, tout le FUD qu'il y a autour de cette fin de cycle de 4 ans, etc. Et peut-être que ça nous servirait, je dis bien peut-être, d'un vrai reset du marché autant par rapport à ce qu'on a purgé sur les dérivés, autant cette fois au niveau du spot, et que peut-être après, on pourrait repartir sur un scénario haussier. Mais par contre, c'est vraiment le niveau à défendre, avant justement, comme tu en as parlé plus tôt, de devoir envisager un potentiel cycle baissier, une fin de cycle haussier. En tout cas, il faut absolument que l'on ne clôture pas plusieurs jours d'affilée sous ce niveau-là, puisque sinon, historiquement parlant, que ce soit en 2017 ou 2021, enfin plutôt 2018 et 2022, ce sont à chaque fois, enfin, ce fut, lorsque nous clôturions sous ce niveau-là, qu'à chaque fois on partait dans un cycle baissier et que la hausse ne revenait plus. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on est vraiment à un moment charnière, à un moment pivot, mais que pour l'instant, puisque vous le savez, moi mon but c'est de vous emmener on-chain, on vise le moyen long terme, mon but c'est vraiment de vous emmener à un bottom local jusqu'à un top local pour justement investir quand il faut et prendre des gains quand il faut. Donc pour l'instant, pas de panique, on tient certains niveaux, mais ça va être extrêmement intéressant de le surveiller, et donc il faut absolument rester prudent.
Oui, et c'est tout à fait corroboré par l'analyse technique. Hein. Je regardais en même temps que tu annonçais ces zones. Aujourd'hui, on a une moyenne mobile 20 qui est à 113 000 dollars. On a une 50 à 102 400, plus ou moins. C'est 375 pour être précis. Et donc, si un jour on travaille durablement sous les 100 000, en effet, ça ouvre la porte à un appel d'air qui nous conduit à la moyenne mobile 100 qui est à 81 000 aujourd'hui. Pour ne pas dire le support qui avait été défendu au printemps 2025 autour de 75. Et si tout ça, ça vient à ne pas tenir lors d'un futur bear market, hein, les fameux 75, donc déjà là, on aurait perdu de 125 à 75, ça serait assez énorme. Eh bien, on a une moyenne mobile 200 hebdomadaire qui aujourd'hui est autour de 54 400. Et donc, admettons que, voilà, comme d'habitude, j'aime bien donner des chiffres, les 126 000 aient été le top de ce cycle. Ça nous ferait, pour rejoindre la moyenne mobile 200 à ce jour, moins 56,8%. Donc, entre moins 50 et moins 60, ce qui est tout à fait de l'ordre du possible et qui en ferait un des bear markets les moins désastreux pour Bitcoin qu'on ait jamais connu. Ça serait presque positif de ne perdre que 50 et quelques pourcents. Bon, du côté des altes, je dis pas, bien entendu, mais du côté de Bitcoin, ça finirait d'asseoir son trône pour les institutions, et je pense que ça se passerait plutôt pas pas mal pour la suite.
C'est clair. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu vois, les niveaux dont tu parles, historiquement parlant, c'est un peu pareil. En fait, quand on regarde ce graphique qui montre, si vous voulez, le nombre de bitcoins accumulés sur certains niveaux de prix. Donc en fait, on arrive à repérer les grosses zones d'accumulation sur BTC. Et chaque zone d'accumulation, généralement, est défendue, puisque évidemment, les investisseurs n'ont pas forcément envie de voir leur bague être dans le rouge. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que, bah, comme on le voit, cette fameuse zone ici, où il y a même beaucoup de détenteurs à long terme qui ont quand même beaucoup accumulé sur ces niveaux-là, on peut dire qu'il y a quand même plus de quasiment 15% de toute la supply de BTC de leur côté qui ont été accumulés entre les 92 et les justement 102 000 dollars. Si on arrivait à passer en dessous, évidemment, on peut avoir un flash crash, vous savez, qui nous amène aux 95 et on repasse très vite sous justement ce niveau clé des 100 000 dollars. Si on passe en dessous, bah par contre, comme vous le voyez, comme tu l'as dit, il y a une poche d'air ici où il y a quasiment plus personne qui pourra défendre ces niveaux-là. Eh bien, on arrive sur des niveaux, voilà, à peu près sur les 70 000 dollars, les 66 000 dollars, ce qui serait pas déconnant non plus. Et qui nous amènerait à cette fameuse zone où on est à peu près à 40% de tous les BTC qui se retrouvent en perte et qui, historiquement parlant, voilà, nous fait une belle zone de bear market, en tout cas à défendre, puisque ici on retrouverait le deuxième gros cluster d'accumulation de l'histoire de BTC. Donc ouais, ça se peut et c'est à surveiller. Encore une fois, il ne faut pas qu'on ait des œillères. Tu le sais, moi j'ai un biais haussier toujours pour la suite du cycle. Mais le but, c'est qu'on tienne les niveaux dont on a parlé un peu plus tôt pour ne pas justement bien faire comme moi j'avais fait en 2022 à garder mon bag du top jusqu'au bottom et me ronger les ongles pendant 2 ans avant de revoir le sourire. Donc le but, c'est vraiment, bah, quitte à même se dire que voilà, il faut vendre un petit peu en perte, le but, c'est pas de partir sur un moins 50 ou 90% avec nos alts dans ce schéma-là.
Si on peut résumer tout ça, en gros, passer durablement sous les 100 000, c'est s'ouvrir la porte à 75-80, et perdre les 75, c'est s'ouvrir la porte à 50-60, grosso
C'est ça, ouais.
merdo. Donc, ça vous donne des chiffres ronds, ça vous donne des baisses potentielles en pourcentage. Donc, par rapport à tout ça, je pense que c'est plutôt clair aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, voilà pour le petit avant-goût de ce qui pourrait nous attendre justement sur cette fin d'année slash 2026, qui sera une année qui va être chahutée encore et toujours avec les midterms de Donald Trump en novembre 2026 et une année sur laquelle va-t-il y avoir à nouveau des discussions au niveau des tarifs. Rappelons que le 1er novembre, eh bien, s'ils n'ont pas conclu d'accord ou trouvé d'arrangement, il y aura 150% entre la Chine et les États-Unis. Donc ça aussi, ça peut au bout d'un moment peser très largement sur l'économie mondiale. Les États-Unis, qui aujourd'hui ont des chiffres qui ne sont pas si dramatiques que ça continue d'avancer, une économie qui est résiliente. Mais résiliente dans quel sens? Est-ce que c'est porté uniquement par la tech? Est-ce que le chômage va continuer de pointer le bout de son nez en même temps qu'un rebond d'inflation? On va avoir très certainement en 2026 apparaître les effets véritablement délétères aussi, y compris pour les États-Unis et les entreprises qui sont situées là-bas, des tarifs de Trump, puisqu'au bout d'un moment, apparemment 2025, il ne répercutait pas ou très peu eh bien, le coût de ces tarifs sur les consommateurs. Mais au bout d'un moment, tout ça va finir par se gripper. Le tout avec une Fed qui aujourd'hui avance littéralement un pas devant l'autre. Ils ne sont pas pressés de baisser les taux et tout juste là, ils arrivent à la fin de leur quantitative tightening, c'est-à-dire d'enlever de la liquidité. Donc, on va revenir à quelque chose d'assez neutre pour les marchés, mais on a des marchés de l'autre côté qui nous disent que tout part sur la lune, en tout cas quand on observe la tech ou l'or ou voilà. Et c'est là où on risque d'avoir un delta au bout d'un moment entre la réalité de l'économie réelle et des petits gens et le mood un peu turbo-bullish qu'a eu depuis des trimestres, voire des années, l'économie et notamment l'économie américaine. Donc c'est ça qu'il faudra jauger en termes de risque par rapport à l'ensemble des marchés, y compris les cryptos en 2026. Merci
Exact.
Adrien, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. Je pense que l'émission d'aujourd'hui va beaucoup plaire comme d'hab. N'hésitez pas à nous faire un maximum de retours dans les commentaires s'il y a des choses que vous souhaitez traiter dans les prochains épisodes ou tout juste pour nous encourager, puisque c'est toujours cool d'avoir des encouragements. Vous pouvez retrouver Adrien sur Onchain Sapiens, sur YouTube, sur Twitter et partout où il est. Il fait des vidéos également, donc abonnez-vous, hein, ça ne coûte rien. Et donc, on se retrouvera dans une quinzaine de jours. On sera début
Et
novembre. Ouais. Et on verra donc s'il y a eu la guerre par rapport à Trump et les tarifs de la Chine et où ça a pu conduire justement nos différents marchés. Merci Adrien. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Allez, merci à tous. Salut CM. À bientôt.